à chacune et à chacun d'entre vous, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné par amour pour manifester l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Il nous réconforte de toutes nos afflictions, de sorte que nous avons et l'amour et la force pour réconforter ceux qui se trouvent eux-mêmes dans l'affliction. Nous vous proposons de commencer par le chant du psaume 42 dans le psautier français comme un cerf altéré brame, les strophes 1, 3 et 8 de ce psaume de recherche de Dieu. Psaume 42.
Père, la nuit est profonde et froide. La souffrance de Jésus au soir du vendredi répond à nos souffrances, à nos solitudes, à nos exclusions. Père, accompagne nos souffrances. La nuit est profonde et froide, et la faiblesse qui s'exprime en Jésus au soir du vendredi, répond à nos faiblesses. Père, mets ta force en nos faiblesses. La nuit est profonde et froide, et la mort, toute proche, nous dit notre finitude, notre fragilité. Père, raconte-nous la vie. La nuit est profonde et froide, toute espérance a disparu, le silence est pesant. Père, viens meubler le silence. Père, comme Jésus, nous voulons remettre notre esprit entre tes mains. Quand il ne reste plus rien, tu es toujours là, dans notre faiblesse, dans nos questions, nos désarrois. Père, ta lumière déchire la nuit, comme le cri du Christ l'a fait. Ta lumière brille à l'horizon de nos nuits, et en toi repose notre espérance et notre vie que nous te remettons. Amen. Et je vous invite à poursuivre cette méditation par le chant numéro 119, Chef couvert de blessures, la première strophe. Et nous chanterons après les strophes, les unes après les autres, après chaque lecture biblique.
Nous avons choisi de suivre l'évangile selon saint Jean, donc, pour prendre le récit donc, de l'arrestation puis de la crucifixion de Jésus. Donc nous commençons au chapitre 18, les 14 premiers versets. Jésus sortit avec ses disciples pour aller de l'autre côté du ravin du Cédron où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la cohorte et des gardes envoyés par les principaux sacrificateurs et par les pharisiens, et il s'y rendit avec des torches, des lanternes et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Il leur dit « C'est moi ». Et Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous ? » Et ils dirent « Jésus de Nazareth ». Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. » C'était afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui trancha l'oreille droite. Le nom du serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée ?» La cohorte, le tribun et les gardes des Juifs saisirent alors Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car c'était le beau-père de Caïphe qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs il est préférable qu'un seul homme meure pour tout le peuple.
Nous poursuivons notre lecture dans l'Évangile de Jean au chapitre 18, les versets 19 au chapitre 19, le verset 5. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit : J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voilà, ceux-là, ils savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant : Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ? Et Jésus lui dit : Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon Pierre était là et il se chauffait. On lui dit : Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples ? Il le nia. Il dit : Je n'en suis point. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit : Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ? Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller, de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit : Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? Ils lui répondirent : Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit : Prenez-le vous-même, jugez-le selon votre loi. Et les Juifs dirent : Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'était afin que s'accomplît la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : Es-tu le roi des Juifs ? Jésus répondit : Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ? Pilate répondit : Moi, suis-je juif ? Ta nation et tes principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit : Tu es donc roi ? Jésus répondit : Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Et Pilate lui dit : Qu'est-ce que la vérité ? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit : Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche, le roi des Juifs ? Alors de nouveau tous s'écrièrent : Non pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient : Salut, roi des Juifs ! Et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, « Voici l'homme. »
Et au chapitre 19, à partir du verset 17. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville vers le lieu appelé le crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha. Et c'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix, il y était inscrit Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville, et l'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas le roi des Juifs, mais il a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais que le sort désigne celui à qui elle sera. » C'était afin que s'accomplisse l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma robe. Voilà ce que firent les soldats. Je crois qu'il y a une quatrième strophe qui devrait rester pour le cantique donc numéro 119.
L'Évangile selon Jean continue ainsi. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voilà ta mère. » Et de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'Écriture soit accomplie : « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Et de manière à mieux entendre, mieux comprendre peut-être ce dernier passage de l'Évangile selon Jean, je vous lis dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 21, les 14 premiers versets de ce deuxième livre de Samuel au chapitre 21. Au temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit : C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites : Que puis-je faire pour vous ? Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel ? Les Gabaonites lui répondirent : Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. Le roi dit : Que voulez-vous donc que je fasse pour vous ? Ils répondirent au roi : Puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibea de Saül, l'élu de l'Éternel. » Et le roi dit : « Je les livrerai. » Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les 2 fils de Ritzpa, fille d'Aïa, 2 fils qu'elle avait enfantés à Saül, Harmoni et Méphibosheth. Il prit aussi les 5 fils de Michal, fille de Saül, 5 fils qu'elle avait enfantés à Adriel de Méola, fils de Barzillai. Et il les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson de l'orge. Ritzpa, fille d'Aïa, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tombe sur eux. Et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour, et les bêtes des champs pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Ritzpa, fille d'Aïa, concubine de Saül. Et David alla prendre les os de Saül et les os de Jonathan, son fils, chez les habitants de Jabès en Galaad, qui les avaient enlevés de la place de Beth-Shan, où les Philistins les avaient suspendus lorsqu'ils battirent Saül à Gibboa. Il emporta de là les os de Saül et les os de Jonathan, son fils. Et l'on recueillit aussi les os de ceux qui avaient été pendus. On enterra les os de Saül et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin, à Tsela, dans le sépulcre de Kis, père de Saül. Et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Chers frères et sœurs, il est des expressions religieuses, des symboles qui frappent l'imagination et qui retentissent en nous profondément. Ainsi en va-t-il sûrement de la traduction latine de l'Évangile selon Jean, qui a inscrit au plus profond de notre mémoire l'attitude noble de ces mères qui se tiennent là, debout, face à l'horreur, dans une formule qui sonne désormais comme le glas, « Stabat Mater ». Ce que j'aimerais que nous retenions ce soir, c'est l'attitude de ces femmes de la Bible, qui font face à la mort de leur fils. Retenir qu'elles se tiennent debout dans une posture qui dit déjà quelque chose de la résurrection. Les livres de Samuel ont donc conservé également une trace, la trace d'une femme qui se tient elle aussi face à la mort. Rappelons les circonstances. Une sécheresse sévit en Israël depuis 3 ans. David décide de consulter Dieu, qui lui répond « Il y a du sang sur la maison de Saül, parce qu'il a mis à mort les Gabaonites. » David en tire la conclusion que Dieu demanderait des victimes en échange. Les victimes seront les 2 fils que Saül a eus avec sa concubine, Ritzpa, ainsi que les 5 fils nés d'une fille de Saül, Michal. Michal dont on se souvient qu'elle avait ri en voyant David danser devant l'Arche d'Alliance. Les sept fils seront donc exposés jusqu'à ce que mort s'ensuive, dans l'idée que cela apaisera Dieu. Qui réagit à cette affaire ? Personne. Quelle voix s'élève pour mettre en cause cette décision barbare ? Aucune. Sauf Ritzpa, fille d'Aïa, qui prit le sac et l'étendit sous elle contre le rocher. Une femme prend une initiative. À vrai dire, elle n'a rien pu pour empêcher cette inexorable action de la machine politique et religieuse qui vient de lui broyer deux fils. Mais elle est là. Et il ne sera pas dit que les corps morts resteront sans veille et sans soin. Elle est la Mater Dolorosa, qui reste debout. Stabat Mater au sommet de la douleur, sur la montagne, devant l'Éternel, dit le texte. Que signifie ce geste de Ritzpa ? André Malraux prononça, il y a bientôt 50 ans, l'éloge funèbre de Jean Moulin lors de son transfert au Panthéon. Pendant son discours, André Malraux évoqua de quelle manière il avait rencontré la résistance française pour la première fois. « Voici comment je l'ai rencontré, dit-il. Dans un village de Corrèze, les Allemands avaient tué des combattants du maquis et donné ordre au maire de les faire enterrer en secret à l'aube. Il est d'usage dans cette région que chaque femme assiste aux obsèques de tout mort de son village en se tenant sur la tombe de sa propre famille. Nul ne connaissait ces morts qui étaient des Alsaciens. Quand ils atteignirent le cimetière, portés par nos paysans sous la garde menaçante des mitraillettes allemandes, la nuit qui se retirait comme la mer laissa apparaître les femmes de Corrèze, immobiles, du haut en bas de la montagne, attendant en silence chacune sur la tombe des siens l'ensevelissement des morts français. Ce sentiment qui appelle la légende sans lequel la résistance n'eût jamais existé et qui nous réunit aujourd'hui, ajoute Malraux, c'est peut-être simplement l'accent invincible de la fraternité. La femme qui se tient sur la montagne de Gibea, Ritzpa, affirme le respect dû aux hommes, au corps. Elle prit le sac et l'étendit sous elle, sur le rocher. Le sac est le vêtement qui recouvre habituellement les endeuillés de la Bible, les pénitents. Il montre ici, étendu sur le sol, le deuil de la terre. La terre gémit et pleure. Et Ritzpa, debout, incarne la clameur maternelle qui monte vers Dieu. Elle se trouve entre les différents domaines du monde créé, debout sur le sol, jusqu'à ce que l'eau du ciel tombe sur eux. Elle rappelle qu'il y a une terre où sont les hommes et un ciel où symboliquement demeure Dieu. Bien des hommes ne devraient pas l'oublier qui limitent souvent le monde à leurs intrigues d'ici-bas. Un monde où ils se croient détenteurs de la vie et de la mort des autres. Ritzpa marque encore une autre séparation, celle de l'homme et de la bestialité. Elle empêchait les oiseaux du ciel de se poser sur eux pendant le jour et les animaux de la campagne pendant la nuit. La longue faction de Ritzpa déclenche des réactions en chaîne. David, apprenant ce qu'elle a fait, décide non seulement de mettre au tombeau les ossements des 7 morts, mais avant cela, il fait rapatrier les restes de Saül et de son fils Jonathan, enterrés au-delà du Jourdain. Ainsi, la revendication de Rizpa, tout à la fois muette et éloquente, porte du fruit. Les corps seront enfin traités comme ils doivent l'être. Après cela, poursuit le texte biblique, Dieu fut apaisé envers le pays. Cela se traduit par la pluie qui est revenue. Cette pluie qui enfin ramène la vie sur terre. Il convient de lire chacun de ces événements à sa juste place dans le récit. Dieu ne donne pas la pluie parce que des victimes lui ont été offertes. Il féconde le sol après que Rizpa a douloureusement honoré la gloire des corps crucifiés, suppliciés, pendus à l'arbre. Rizpa, dans un monde de mort et de violence, a travaillé pour que l'humanité ne soit pas oubliée. Devant l'Éternel, Rizpa s'est tenue debout et elle a protesté. Elle a témoigné pour la plus grande gloire de Dieu contre ce qui défigure l'homme. Et au fond, ce devrait toujours être cela, protester. Ainsi, dans la Bible, les mères ne sont pas seulement présentes au moment de la grossesse et de la naissance. Elles continuent à jouer un rôle primordial dans la suite de l'histoire et souvent au terme de l'histoire. En observant ici cette fonction maternelle, nous découvrons de quelle manière les femmes de la Bible ont réagi face à la mort et comment elles ont réussi à faire éclater la douleur de la mort pour que jaillisse à nouveau cette puissance de vie que Dieu avait mise en leur sein. Les textes bibliques, une fois de plus, ne nous épargnent nullement la noirceur de l'histoire. Mais ils nous révèlent aussi de quelle manière la promesse de vie peut être ressuscitée finalement au cœur du tragique. La Bible pousse la réflexion du lecteur jusqu'à l'insupportable. En racontant l'histoire de ces femmes qui doivent affronter la mort de leur propre enfant, afin de nous faire entendre de quelle manière la parole de Dieu, l'Évangile, parvient néanmoins à se faire murmure jusqu'à nos oreilles. C'est lors de la moisson des orges que les 7 fils furent fauchés. C'est lors des pluies fécondantes qu'ils ont mis au tombeau avec le Messie Saül et son fils Jonathan. Rizpa était là pour ses 2 fils, celle qu'elle avait enfantée à Saül, mais les 5 autres ne lui étaient en rien apparentés. Comme les femmes de Corrèze rencontrées par Malraux, Rizpa fait partie de ces figures magnifiques de maternité élargie, qui fait entendre aux esprits les plus fermés ces accents invincibles de la fraternité. Rizpa fait partie de ces femmes qui ont milité, protesté pour la vie qui vient de Dieu, contre la violence qui vient des hommes. Elle fait partie de ces femmes qui ont ajouté des fils à leurs propres fils pour que l'humanité l'emporte malgré tout. Et Marie se dresse en leur compagnie. Comme elle, Marie accueille un nouveau fils que lui désigne son propre fils, exposé à la foule qui réclame son sang. Rizpa annonce ainsi que les femmes qui ont travaillé à la vie sont aussi celles qui ont ouvert une brèche dans la violence du monde si douloureusement exposée dans cet évangile. Une brèche par laquelle la vie a pu se déverser à nouveau, ici comme ailleurs. Ces femmes ont enseigné ce qu'est l'humanité. Amen. Nous prolongeons cette méditation par le chant du cantique 143. Ô Jésus, ta croix domine. Nous chanterons les strophes 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vous propose de vous lever pour chanter ce cantique « Ô Jésus, ta croix domine ».
Thank you.
Vous pouvez prendre place. D'abord, comme annonce, je voudrais vous remercier d'être venu ce soir, après le travail peut-être, ou bien dans le froid. C'est vrai que c'est précieux de vous avoir eu ici pour qu'ensemble, nous puissions méditer sur ce que le Christ nous a offert. Demain soir, nous avons Chantons Pâques, c'est-à-dire qu'à 18h ici même, ceux qui le désirent vont se réunir pour chanter toute une belle série de nos cantiques préférés, de la Passion d'abord, puis de Pâques, avec aussi de la musique d'orgue et puis un court message. Donc demain, ici, 18h à 19h. Et puis le culte de Pâques, donc au foyer de l'âme, et ici même à 10h30. Alors au foyer de l'âme, c'est avec bien sûr Vincent qui donnera la prédication, avec la Sainte-Seine aussi. Et puis ici même, c'est James et moi-même qui donnerons une prédication à deux voix. Maintenant, c'est le moment de l'offrande et c'est vrai que nous pouvons, dans la louange, dans la reconnaissance de ce que Dieu nous a donné, bien participer à ce travail de l'Église par l'offrande.
Père, de la nuit fait briller et jaillir la lumière, et du désespoir fait une espérance nouvelle, que celles et ceux que nous te présentons, des parents, des amis, des proches, soient baignés de cette lumière, de ta clarté. Mais du monde monte le cri de souffrance de celles et ceux qui sont écrasés par les violences et les injustices, de ceux dont le regard est perdu et qui te cherchent alors qu'ils sentent leur fin prochaine. Père, nous te les remettons. Oui, Père, nous te remettons le monde en toute confiance pour la paix, pour la justice, pour la joie, comme nous te remettons tes églises afin qu'elles soient fidèles à ta parole. Par ton esprit, que chacun, quelle que soit son appartenance, puisse vivre et grandir dans la dignité, dans la joie, dans la plénitude et la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Soyez debout, comme ces femmes qui ont été évoquées tout à l'heure. Debout dans la dignité de l'humain face à l'indignité. Debout dans l'espérance face à toute perte d'espérance. Debout dans la vie face à la mort. Oui, soyez debout pour aller dans ce monde et dire partout où vous irez que c'est la vie qui l'emporte, que c'est l'amour qui l'emporte, que c'est la lumière qui l'emporte. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Allez en paix en sa présence. Allez en paix dans cette lumière qui déchire la nuit du mal, de la souffrance et de la mort. Amen. Et je vous invite à prendre le cantique 403, les strophes 1, 2, 3.